Fantastic.
Donc, nous sommes toujours sur les oreilles loin du front. Nous recevons donc maintenant Fred et Sylvie. Donc, Fred et Sylvie, vous avez effectué un long voyage au Mexique et notamment au Chiapas. Et vous avez ramené plein de sons et plein d'expériences dont vous allez nous parler.
Oui, on va vous parler de tout ça. Et on profite en fait de la venue en France, comme vous l'avez dit dans l'agenda précédemment, de Gloria Muñoz Ramirez, qui est journaliste et écrivaine mexicaine, et qui donc vient en France pour parler de l'EZLN, qui fête, donc l'EZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, qui fête cette année deux anniversaires. Sa date de création, c'était le 17 novembre 1983, donc 21 ans cette année, mais on est dans la 20e année, et les 10 ans de l'insurrection, le 1er janvier 1994, date à laquelle on a connu le ZLN et le mouvement zapatiste. Donc, profitant de cette venue, voilà, on a voulu parler un petit peu de ce qui se passait au Mexique, au-delà peut-être aussi de le ZLN, et comment le ZLN et le mouvement zapatiste pouvaient aujourd'hui influencer d'autres mouvements. On verra avec une revue qui s'appelle La Guillotine, qui est basée dans la ville de Mexico, qui a été créée il y a 20 ans par des étudiants. Et aujourd'hui, un mouvement, enfin, un café alternatif, donc beaucoup plus jeune, avec des gens aussi beaucoup plus jeunes, qui a été créé à Puebla, une ville à côté, qui se situe à côté de Mexico, qui s'appelle Esperal Siete. Et donc là, ça fait 2-3 années que cet endroit vit et essaye de vivre. On parlera aussi des difficultés qu'ils ont. On a voulu commencer par le commencement et donc l'histoire de l'EZLN que Gloria Muñoz Ramirez va nous raconter tout de suite.
Bueno, listos? Ya? 3, 2, 1, comenzamos.
Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994.
A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declaro formalmente...
Bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, se crée le 17 novembre 1983.
Et de quelle manière?
De quelle manière?
Bueno, seis personas,
six personnes, trois indiens et trois métis, s'installent dans la jungle de la Candona et créent formellement les ZLN.
Instalan formalmente el STLN. ¿Qué significa esto?
Qu'est-ce bueno, que ça signifie? De ahí, una bien qu'à partir de ce moment, une organisation politico-militaire avec des idées à cette époque-là de la gauche révolutionnaire traditionnelle essaie de s'implanter dans les communautés indiennes rebelles et à partir de là, lancer une révolution.
Qu'est-ce que passe? Bueno,
que ce groupe se confronte aux communautés indiennes. Et le ZLN connaît alors ce qu'elle appelle sa première grande défaite, une défaite face à la culture indienne, une culture qui les oblige à écouter. C'est un peuple qui luttait déjà depuis très longtemps et avait derrière lui une propre histoire politique d'émancipation. Les Indiens leur disent « Nous partageons votre idée de la lutte, le « ya basta », mais nous ne comprenons pas ton message. Nous ne comprenons pas cette doctrine, cette idéologie. » Et les ZLN font leur preuve d'une de ses premières qualités, celle de l'écoute. Elle écoute, s'arrête et étend alors son influence dans les communautés indiennes qu'elle a elle-même pris soin d'écouter. Et c'est un processus de 10 ans, de 1983 à 1993. Ce sont 10 ans très intenses pendant lesquels se transmet le message de la lutte zapatiste d'une personne à une autre personne, d'une famille à une autre famille, et c'est déjà deux familles zapatistes. d'une famille à une autre famille, et c'est déjà 4, 5 familles zapatistes, 6, 10, 20 familles zapatistes. Une communauté zapatiste, on peut déjà entrer la guérilla en toute sécurité.
Después son dos comunidades, puis deux communautés, después son
puis
tres,
trois,
después
puis dix, diez, vingt, después son 20, 50, 50, des centaines, plus de 1000 communautés zapatistes.
Más de 1000 comunidades zapatistas. Yo creo que nos puede
Je crois
trabajo.
Que ça peut nous demander Imaginar un effort d'imaginer comment des dizaines de milliers d'Indiens, hommes, femmes, enfants, mujeres, peuvent garder un secret pendant 10 ans.
A nosotros que formamos parte de otra cultura,
pour nous qui faisons partie d'une autre culture, je crois que c'est difficile d'imaginer la clandestinité de cette organisation.
Yo creo que para entender este proceso o para intentar
entenderlo,
debemos
remitirnos a 500 años de resistencia indiana. Pour comprendre ce processus ou essayer de le comprendre, nous devons nous référer à 500 ans de résistance indienne et à tous les mécanismes qui nous ont dû créer, à tous les mécanismes de défense pour résister à tout type d'agression pendant ces 500 ans.
Durante estos más de 500 años. Estos indígenas,
ces Indiens rebelles zapatistes appartiennent en plus à 5 groupes ethniques différents. Ils sont tzotziles, tzetzales, choles, toholavales, soques, mames, qui s'unissent pour la première fois dans une insurrection.
En la historia de México,
dans l'histoire de Mexico, traditionnellement, ils avaient même été ennemis. Et la révolte zapatiste réussit à les unir pour la première fois dans l'histoire.
Y la sorpresa es muy grande para todos.
Et la surprise est très grande pour tous ce 1er janvier 1994. Le secret avait été tellement bien gardé que ce matin de 1994, tout le Mexique et le monde entier est surpris que là-bas, au Chiapas, dans le sud-est mexicain, des milliers d'hommes et de femmes se soulèvent en armes pour dire « ya basta ». Au gouvernement et au système néolibéral qui s'impose dans le pays.
Néolibéral qui impère en el país, qui impère en el país. Es un momento político y
C'est un moment politique et économique très particulier dans le pays. Le Mexique, ce même jour, à cette même heure, entre dans le traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. C'était, j'insiste, l'entrée formelle dans le monde des pays développés. Lorsqu'un groupe d'Indiens du sud-est dit « Ce n'est pas vrai, nous n'appartenons pas au monde développé, nous en sommes très loin, pas seulement nous les Indiens, mais des millions de Mexicains qui ne font pas partie de ce projet néolibéral et qui sont les oubliés de cette prétendue modernisation. » Ça, c'est le moment, le contexte dans lequel apparaît aux yeux du monde la lutte zapatiste. Et ça fait déjà 10 ans.
Et
ça a été très simple. Ça fait déjà 20 ans de lutte zapatiste et 10 ans de vie publique pour le ZLN, pendant lequel ils se sont fait connaître et ont emprunté un chemin différent.
La lucha iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una causa justa que atiende a todas las injusticias que sufrimos a diario. Por esta negra vida, nos llama la atención de seguir haciendo esfuerzo de unir nuestras manos, de unir nuestra voz y de unirnos, y constataremos que unidos facilita ser escuchado, veremos que con nuestra fuerza nos acomoda en nuestro lugar.
Obreros, campesinos y estudiantes, empleados del pueblo en general, marchemos de frente con los puños, hagamos ceniza al capital. Llevamos muchos años de
rapidement, ce 1er janvier 1994 nous surprend avec cette guerre. avec des morts des deux côtés. Donc nous devons nous souvenir, car la guerre au Chiapas n'est pas terminée. Elle n'a pas duré un mois ou 12 jours, comme le dit le gouvernement. C'est une guerre qui a 7 années d'existence. Tout d'abord, le ZLN, pendant les premiers jours de guerre, connaît sa deuxième grande défaite. Ils s'étaient préparés pour le 1er janvier, pour la guerre, pour vivre ou mourir dans des affrontements, mais pas pour le 2 janvier. Pour un moment où la société civile nationale se soulève pacifiquement en soutenant cette cause et en leur disant « Nous soutenons vos aspirations, nous les partageons même, mais sans vous suivre le fusil à l'épaule. » Ça, c'est un moment très important parce que le ZLN, qui avait déjà dû écouter durant la première étape de sa construction, doit de nouveau s'arrêter, écouter et faire face à un choix, soit suivre le chemin pour lequel il s'était préparé pendant 10 ans ou prendre un chemin différent, alors inconnu, et qu'ils n'avaient pas envisagé. Ils choisissent le deuxième chemin et commencent alors un processus d'apprentissage, de cheminement, tout en se faisant connaître.
Buen rollito.
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sagen Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Y bienvenidos a esta primera emisión intergaláctica de Radio Insurgente.
Estos 10 años los podemos estructurar de la siguiente manera.
Nous pouvons les présenter de la façon suivante. D'un côté, les zapatistes développent une phase de dialogue avec la société civile nationale et internationale. Ouvrir en permanence des espaces de participation politique originaux au niveau interne et externe. La deuxième voie empruntée par le ZLN pendant ces 10 ans a été la négociation avec le gouvernement fédéral.
Ils initient un processus de négociation
très innovant. Pour la première fois, un mouvement politico-militaire négocie avec le gouvernement en 10 ans. Toi, gouvernement fédéral, tu ne vas pas négocier seulement avec nous, mais avec tous les mouvements indiens nationaux que nous allons convoquer pour cette négociation. Et pendant 11 mois, le gouvernement et tout le mouvement indien national dialoguent sur les droits et la culture indienne.
Et en février 1996,
ils aboutissent aux accords de San Andrés, qui sont les premiers accords de paix.
Los primeros acuerdos de paz. Entre otras cosas, el gobierno federal,
le gouvernement fédéral reconnaît le droit à l'autonomie des peuples indiens du pays.
¿Qué es lo que pasa posteriormente? Bueno, que el gobierno federal
avait signé ces accords sans aucune intention de les appliquer.
Intención de cumplirlos. De 1996 à 2001,
le ZLN passe son temps à exiger l'application de ces accords.
El cumplimiento de estos acuerdos. Pero además,
mais parallèlement, ils ouvrent d'autres voies de participation politique, différents des espaces habituels utilisés par les partis politiques, les syndicats et les organisations plus traditionnelles de la gauche mexicaine. Ils organisent des consultations, des marches, des rencontres, et tout cela dans le cadre de l'application des accords de San Andrés.
En este contexto,
c'est dans ce contexte qu'a lieu la marche de 2001, la marche de la couleur de la terre, où 23 commandants et un sous-commandant sortent de la jungle de la Candone avec comme destination Mexico pour exiger la reconnaissance de ses droits et de la culture indienne. Cette marche est accompagnée par des millions de personnes de tout le Mexique et du monde entier qui viennent au pays pour soutenir cette mobilisation. En réclamant l'application des accords de San Andrés.
Demandan el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Los zapatistas llegan
les zapatistes entrent à Mexico avec toute cette légitimité gagnée tout au long du parcours et ils se présentent devant le Congrès de l'Union où la commandante Estelle, avec un discours mémorable, parle de la nécessité de reconnaître ces droits. À ce moment, le Mexique vit une période politique très particulière. Après avoir été gouverné pendant plus de 70 ans par le Parti révolutionnaire institutionnel, le gouvernement change et le Parti d'Action Nationale entre en fonction avec à sa tête l'actuel président Vicente Fox. Et se dessine un changement. Il faut le dire très clairement, à ce moment-là, les Mexicains et les gens du monde entier voulaient y croire. Des millions de personnes n'imaginaient pas que le gouvernement pouvait ne pas entendre leur clameur, pouvait rester aveugle et sourd, que la classe politique pouvait ignorer ce qui se passait au Mexique et dans le monde.
Que no podía ser una clase política que le diera la espalda a lo que estaba pasando en México y en el mundo a través de estos acuerdos.
Nous nous sommes trompés. La classe politique dans son ensemble rejette les accords de San Andrés. Et rejetant ainsi les efforts réalisés non seulement par le ZLN et les Indiens, mais par le pays tout entier, par des millions de personnes du monde qui s'étaient mobilisées et partageaient leurs revendications. Et à partir de là, commence une autre phase, celle du processus actuel de consolidation réelle de ce qui a été nié par le gouvernement et les partis politiques.
De lo que fue negado por el gobierno federal y los partidos políticos.
Las llamamos a todas hermanas, obreras, maestras, amas de casa, costureras, doctoras, empleadas, barrenderas, mujeres lesbianas, artistas, vendedoras de la calle y trabajadoras de los medios de comunicación honestas. Para exigir nuestros derechos que merecemos y para acabar con la injusticia, porque solo unidas y organizadas podremos lograr la justicia. Nuestra marcha no es la última, sino que es el principio para seguir luchando por nuestros derechos.
Les zapatistes, les communautés indiennes rebelles, continuent à renforcer leur autonomie.
De consolidation de son autonomie.
Pendant toutes ces années, de 1994 à 2003, les zapatistes se sont organisés en communes autonomes, cherchant à obtenir la reconnaissance constitutionnelle.
Les
zapatistes continuent alors à s'organiser et consolident ce qu'ils avaient commencé à mettre en place depuis
1994.
Et c'est en août 2003 qu'est annoncée la création des assemblées des conseils de bon gouvernement qui se rattachent à ces régions.
Qu'est-ce qu'ils organisent concrètement? Ils organisent un système d'éducation autonome,
un système de santé autonome,
un système de salud autonoma, un système de commerce alternatif,
des médias de communication alternatifs,
et utilisant leurs us et coutumes,
un nouveau système de justice.
Voilà, donc toujours au Mexique avec Fred et Sylvie, et là vous allez nous parler d'une revue qui s'appelle La Guillotina.
Muy bien.
Mais c'est
tout
bien,
à
hein.
fait. Oui, on va vous parler donc de la Guillotina, qui est une revue qui a été créée en 1982, donc il y a 20 ans, et qui donc au départ a été créée par des étudiants qui ont vieilli, mais il y a toujours aussi des jeunes, donc il y a comme ça plusieurs générations qui se côtoient dans cette revue. Et Sylvie, tu as passé donc et interviewé aussi, tu as passé une semaine à la Casa Biera, qui est donc la maison dans laquelle vivent tous les collaborateurs de la revue, donc la Guillotina.
Oui, alors donc j'ai passé une semaine, donc c'est à Mexico, ça s'appelle la Casa Vieja, ils vivent là en communauté, enfin une partie des gens de la Guillotine, et ils vendent le journal un peu partout, donc on peut les voir soit dans une manifestation, soit dans une librairie indépendante, soit au fin fond du Chiapas, et toujours avec cette revue. Donc vous allez entendre maintenant une interview de El Ocho, qui va vous raconter un peu et l'histoire de cette revue et les idées qu'ils essaient de défendre et comment le zapatisme, quand il arrive, à la fois les a influencés et comment eux relaient cette parole et le débat que génère l'arrivée du zapatisme au Mexique.
Bueno, la guillotina aparece en 1982.
Bon, la guillotine apparaît en 1982. C'est le résultat d'une réflexion d'un secteur du mouvement étudiant et syndical qui voyait que la gauche mexicaine et au niveau international, la gauche des partis, ne prenait pas en compte de nombreux aspects fondamentaux dans leurs analyses politiques, par exemple la vie quotidienne, la sexualité, les problèmes culturels des sociétés modernes, les contre-cultures en général, certains mouvements comme les féministes, les écologistes, les mouvements gays, etc. Et donc la guillotine naît de la nécessité de donner la parole à tous ces nouveaux mouvements, de créer un espace de discussion où la vie quotidienne, la sexualité, la culture, et de nouveau discuter par une gauche nouvelle qui n'est pas une gauche à la recherche de débouchés politiques. Et nous sommes apparus au moment du centenaire de la mort de Marx, où il y eut un débat très important au sein de la gauche mexicaine. Parce qu'auparavant, le marxisme se concevait comme le patrimoine exclusif des classes dirigeantes et intellectuelles des partis de gauche. Donc nous avons poussé pour une ouverture, une vision beaucoup plus libertaire, antibureaucratique du marxisme. Et le débat politique n'a cessé d'avancer tout au long de ces 20 années, et nous avons intégré différents points de vue. Nous avons trouvé, par exemple, dans de nombreux mouvements, la présence de la pensée de Foucault et de nouvelles formes de pensée, comme le mouvement zapatiste, dont la guillotine a été une tribune importante. Nous faisons partie depuis le soulèvement zapatiste du zapatisme civil qui a aidé à rompre l'isolement traditionnel des mouvements indigènes. Parce que le mouvement zapatiste est tout le contraire d'un mouvement isolé et qui isole. C'est un mouvement qui parle au monde entier. Il génère des relations internationales, il reçoit des observateurs de partout dans le monde. Et il enrichit ainsi de façon notable une lutte qui, avec une autre conception, aurait pu être très exclusive et très ethnique. Ils revendiquent leur particularité ethnique, ils revendiquent leur culture, leur mémoire historique, 500 ans de résistance, mais ils le font ouvert face au monde, ce qui est très différent de ce qui se passe dans d'autres pays et d'autres mouvements. Et nous, la guillotine, nous avons été une tribune importante pour la diffusion de leurs idées et surtout du débat généré autour des idées zapatistes. Nous avons montré la position de différents intellectuels, de différents courants sur le mouvement, et aussi les nouveaux mouvements sociaux d'autres parties d'Amérique latine et d'Europe.
Et c'est ce qui nous paraît très important. Nous faisons partie d'un énorme réseau qui génère de nouvelles formes de pensée et d'action politique.
Que no queremos morir, que queremos vivir en el mundo juntos, sin olvido, sin pobreza, sin desprecio, sin marginación ni desprecio.
Nosotros estamos llevando adelante un esfuerzo
nous,
que
nous
no
poursuivons
es,
un effort qui est un effort indépendant.
¿No? En México es muy difícil.
Au Mexique, c'est très difficile d'éditer des revues.
La
communication
est
monopolisée et corporatrice, et la communication au Mexique est subordonnée aux grands groupes de télévision, aux journaux. Et sauf quelques exceptions comme La Jornada et la revue Proceso, il n'y a pas d'espace pour les mouvements sociaux, pour l'opposition, pour la dissidence. En ce sens, la revue, nous considérons que nous faisons un travail militant. Nous vendons 5000 revues de la main à la main, nous-mêmes, dans tout le pays, et parfois ailleurs quand on nous invite. Et nous avons maintenu cette dynamique de travail car elle nous permet de survivre, vu que nous n'avons pas la moindre chance d'accéder aux circuits commerciaux de distribution ni aux recours financiers dont use la droite, financés par les fondations, l'Église catholique, les entreprises, etc. Nous nous éditons grâce à nos propres efforts et ce que nous rencontrons, c'est une grande nécessité sociale de parler, de discuter, de penser, d'avoir des éléments d'analyse des différents problèmes sociaux et des mouvements qui s'y confrontent. En ce sens, nous couvrons une facette, certes très petite, car nous voudrions toucher beaucoup plus de gens, que le débat soit beaucoup plus grand, mais nos possibilités sont minces, puisque nous sommes un groupe relativement petit. Nous comptons avec une présence intellectuelle forte, après plus de 20 ans de travail permanent. Mais finalement, nous sommes une expression plurielle qui contient plusieurs points de vue de la gauche, mais qui n'aspire pas à devenir la revue de gauche. Nous sommes juste une tribune de plus et un collectif relativement petit, avec beaucoup de collaboration, mais ceux qui la font, nous sommes peu. On pourrait parler d'une périphérie de 50 personnes et l'équipe de rédaction, nous sommes 8 personnes, ce qui donne forme à ce chaos organisé. Certains vivent ici en communauté à la vieille maison, qui est un espace alternatif de rencontre que nous mettons à disposition de beaucoup de camarades solidaires des luttes mexicaines des différentes parties du pays, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent de leur côté. Nous ne fonctionnons pas comme une secte et en ce sens, nos discussions sur le personnel est beaucoup moins tendue que celle qui souvent se présente en Europe, où il y a des discussions très fondamentalistes par rapport à l'alimentation ou l'éducation, les relations entre les sexes, la sexualité, etc. Nous avons coupé avec beaucoup de choses et nous sommes un espace très riche, très ouvert, très pluriel, où viennent des personnes de tout genre. Enfin, bien sûr, de gauche. Bien sûr qu'ils luttent pour un monde différent et qui pensent la vie d'une façon humaniste
et
qui luttent pour l'environnement. Enfin, nous ne sommes pas pluriels au point de donner une tribune à la droite ou à ceux qui déjà ont les énormes tribunes des grands médias. Nous sommes un petit contrepoids avec de nombreuses autres publications dans le pays et dans le monde. Et c'est ainsi que nous nous concevons comme partie d'une grande lutte. Nous avons rencontré une grande écoute, non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. En Amérique latine, par exemple, nous recevons des collaborations permanentes de camarades d'Argentine qui discutent aussi là-bas des luttes sociales, parce que là-bas aussi se sont rompus les anciens modèles et les structures politiques et sont nés des mouvements d'un autre genre, comme le mouvement des chômeurs, les ouvriers qui ont occupé leurs usines. Est apparue l'agriculture urbaine dans certaines zones de Buenos Aires et d'Argentine. Et c'est très intéressant aussi. Nous avons aussi essayé de ne pas tomber dans de nouvelles mythifications. Si nous sommes critiques avec les anciennes mythifications de la gauche, nous ne pouvons pas être non critiques avec les nouvelles. Nous sommes donc aussi comme une petite pierre dans la chaussure de ceux qui prétendent que l'altermondialisme va bien, que tout va bien, que nous sommes la nouvelle résistance, Internet. Non, nous pensons que le chemin est encore très long. Et la revue et ses collaborateurs restent critiques face au processus que nous vivons. Nous restons la guillotine, un instrument au service de la critique et de la lutte contre le pouvoir, mais qui ne s'assume pas comme l'arme justicière des révolutionnaires contre les oppresseurs, parce que les révolutionnaires aussi sont passés par la guillotine.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front, et on continue donc ce voyage au Mexique avec Fred et Sylvie. Donc Fred, on va parler de... J'ai pas bien compris, donc tu vas m'expliquer.
Et on va aller à Espiral Siete, donc dans la ville de Puebla. Puebla qui est située à 2 heures de route à peu près de Mexico, la ville de Mexico. Pour situer un petit peu, Puebla, c'est une ville, enfin le sentiment qu'on a eu quand on l'a traversée comme ça un petit peu, c'est une ville quand même assez riche. Hein, on a... Enfin, il y a pas mal de magasins très très riches, des marchands de voitures, etc. Et bon, du coup, une ville quand même, on peut le dire, à droite, qui est dirigée par le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui a été au pouvoir au Mexique pendant 70 ans avant l'arrivée de Vicente Fox, l'actuel président. Donc, à Puebla, on a rencontré les gens donc d'Espiral Siete. Juan dans un premier temps et Tamara dans un second temps, qui ont monté ce lieu donc il y a 2-3 ans. Eux ils ont une vingtaine d'années à peu près, et leur idée en montant ce lieu, eux ils sont héritiers entre guillemets du zapatisme et de l'arrivée du zapatisme au Mexique, au contraire de la guillotine qui est beaucoup plus ancienne. Et c'est un lieu dans lequel on peut simplement au moins aller boire des coups, etc. Mais évidemment, il y a un caractère plus politique. C'est là où ils font notamment des ateliers. Ils réfléchissent aussi à une organisation plus horizontale du pouvoir. Alors ça reste tout petit, etc. Mais il faut voir aussi qu'on leur met tous les bâtons dans les roues possibles. Là, on nous a dit il y a quelques jours. Donc là, on les accuse en fait d'être des guerrieros au service donc de Marcos. Voilà. Donc toute la presse, la presse en tout cas au niveau local s'y met pour complètement désavouer ce qu'ils font. Et eux, à part envoyer des communiqués, c'est simplement pour montrer qu'il y a vraiment une pression au quotidien dans ce lieu autour de Juan et Tamara qui s'en occupent. Sylvie, tu voulais rajouter quelque
chose? On va écouter Juan et Tamara qui vont nous présenter un peu ce lieu, cet espace, ce café alternatif qu'ils veulent libre et ouvert.
Viva el subcomandante insurgente Marcos!
Viva!
¡Viva las juntas de buen gobierno!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva los pueblos de resistencia!
¡Viva!
¡Viva la sociedad nacional e internacional!
¡Viva!
Bueno, yo soy Juan.
Y yo soy Sergio.
Bueno, estamos en la 7 Poniente 509. Estamos en el centro de la ciudad de Puebla. Y aquí es donde tenemos el local de Espiral 7, que abrimos hace 2 años. Es un espacio de creación colectiva y un espacio libre. Inauguramos el 12 de abril del 2002.
Je suis Juan et moi Sergio. Nous sommes entre la 7e et la 5e rue en plein centre de Puebla. C'est ici qu'est le local d'Espiral 7, que nous avons ouvert il y a 2 ans. C'est un espace de création collective et un espace libre. Nous avons fait l'inauguration le 12 avril 2002.
La mayoría éramos jóvenes que cuando empezábamos.
Nous étions tous très jeunes quand est apparu le zapatisme en 1994. On était des gamins. On avait 12 ans, d'autres 15, mais plus ou moins par là. Et pendant tout ce temps où nous aussi grandissions et nous voyions la lutte zapatiste, nous avons évolué et l'avons vu de façon différente. Et petit à petit, au lieu d'aller là-bas, aider les camarades du Chiapas et en voyant leur réalité et leur façon de construire ce monde nouveau, nous nous sommes demandé, mais quel est notre rôle ? Nous nous sommes rendus compte que de construire le zapatisme ou contribuer à cette lutte, ce n'est pas forcément rester là-bas et faire tout pour le Chiapas, mais aussi commencer à nous demander que peut-on faire où nous sommes, où nous nous trouvons, quels sont les besoins. Et le zapatisme avait déjà posé, nous nous souvenions lors de la consultation zapatiste en 1999, dans le communiqué de l'EZLN pour la consultation, il disait que qu'un poème, une chanson, un groupe ou une personne seule, c'était déjà y participer. Et nous sentions aussi qu'il était nécessaire que ici, dans les villes, les gens se rendent compte qu'ici aussi il y a des besoins. Nous ne sommes pas totalement bien. Alors que l'on disait, mais dans les villes il y a tout. Un peu de pauvreté, mais tu as tes droits, non ? Alors que les zapatistes se sont soulevés parce qu'ils n'avaient rien. Et justement, nous avons commencé à dire que les 13 demandes fondamentales de l'EZLN sont applicables à toute l'humanité de façon différente. Certains, en effet, ici, ont un toit, mais pas de travail. Et nous avons l'éducation, mais quelle éducation ? L'alimentation, par exemple, oui, nous mangeons, mais quel droit de regard nous avons sur l'alimentation ? La question de la santé, la sécurité sociale se casse la gueule et nous vivons dans des processus de privatisation. Donc tu commences à regarder tout ce qui t'entoure et tu te dis qu'ici aussi il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ainsi que nous avons concrétisé l'Espiral 7. 4 personnes, ceux qui ont initié le projet. Et alors nous avons dit que même avant l'ouverture officielle de l'espace, nous allions l'ouvrir pour que les autres groupes sachent qu'il va exister un espace et que s'ils veulent dès maintenant s'intégrer au projet, ils viennent et que ensemble nous l'enrichirions afin que ce soit un projet pour tous. Ce fut beaucoup de travail au début. Il nous a fallu presque 2 mois pour mettre le projet en place. Et quand nous avons eu le local, une semaine avant d'ouvrir, sont arrivées une 20aine de personnes. L'ami de l'ami, le cousin de je ne sais qui, des gens que nous ne voyons plus depuis très longtemps, qui avaient entendu parler du concert. L'un a dit, moi je suis charpentier, moi je peux faire un gâteau pour l'inauguration, moi ceci. Et tous, nous avons commencé à travailler et à construire l'espace.
Par exemple, le tapanco.
Par exemple, la mezzanine, nous l'avons fait avec deux charpentiers et différentes mains qui se sont proposées pour travailler. Nous avons fait un mural parce que nous voulions faire comme un miroir, un petit miroir de ce que nous voyons au Chiapas. Et un mural, c'était une chose essentielle. Alors on a fait un mural et nous avons convoqué qui voulait venir.
Et convocamos así abiertamente a quien quisiera participar, ¿no?
Et sont arrivées des copines qui peignaient, mais c'est ensemble, en discutant de ce que nous voulions sur le mural, elles ont fait une proposition, et ensemble, nous avons peint. Certains n'avaient jamais peint. Et nous avons mis en place une participation assez magique d'un collectif où chacun arrivait et apportait ce qu'il pouvait. Un petit dessin ou un plus grand, mais on sentait que ça appartenait à tout le monde.
Libertad, no quieren soledad.
De buen gobierno.
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva los pueblos de resistencia!
¡Viva!
¡Viva la sociedad nacional e internacional!
¡Viva!
Alors, voilà, toujours les oreilles loin du front, Fréquence Paris Pluriel. Donc, on a encore un petit peu de temps avec vous, Fred et Sylvie. Donc, on va un petit peu discuter. On en parlait en rantaine. Quelle est un petit peu l'actualité du mouvement zapatiste? Où en est la lutte actuellement? Qu'est-ce qui se passe, quoi?
La dernière date importante dans le mouvement zapatiste, c'est le 8 août 2003 et la création des caracoles et des juntas de buen gobierno.
Gloria, dans son interview tout à l'heure, nous raconte un peu l'histoire du mouvement et s'est arrêtée justement à ce moment-là, c'est-à-dire l'année dernière, à la création de ces caracoles y juntas de buen gobierno. C'est le moment où le mouvement zapatiste cesse d'attendre du gouvernement l'application des accords de San Andrés et décide de mettre en application et de mettre en marche et en place leur autonomie. Qu'ils avaient évidemment déjà commencé à mettre en place tout au long des 10 années, mais qu'ils officialisent. Et à ce moment-là, ils créent donc Los Caracoles, c'est l'équivalent de 5 régions dans le Chiapas, qui sont gouvernées par las Juntas de Buen Gobierno, donc les conseils de bon gouvernement, qui sont des conseils désignés au sein des communautés. Et ensuite, des structures autonomes que sont les cliniques, les écoles et des coopératives de café et de différentes choses. Donc ça, c'est un peu ce que nous, on a vu. Donc aujourd'hui, quand on arrive au Chiapas, justement, on est reçu par la Junta de Buen Gobierno si on arrive dans un caracol. Donc c'est ce qui nous est arrivé, nous, quand on est arrivé à Oventic. Hein, Fred?
Oui, parce que ce qu'il y a d'intéressant, enfin d'étonnant plutôt quand on arrive, effectivement, on sait donc qu'il existe des hôpitaux, des écoles, et on arrive là-bas un petit peu, en découvrant avec des yeux grands ouverts, on se demande comment ça va se passer, et en tout cas, ce qu'on a vécu en arrivant à Oventic, c'est donc voilà, la Junta nous reçoit et nous explique en fait où en est le mouvement avec les aspects positifs, enfin ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va moins bien, les doutes, etc. Et voilà, ils accueillent les bras ouverts, mais après voilà, il faut, enfin, il est préférable d'arriver, de peut-être avoir des projets. C'est ce qu'on a rencontré avec l'hôpital, les gens qui s'occupent de l'hôpital à Aubentic. Donc c'est souvent des étrangers. Mais ce qui se passe concrètement au Chiapas, c'est que les médecins, les dentistes étrangers forment sur place des promoteurs, donc promoteurs de salut dans le cas de l'hôpital, des gens qui donc à terme seront capables de soigner les gens. Alors donc, voilà, pour les médecins, des pharmaciens, à l'école, c'est la même chose. Et donc ça, c'est toujours cette volonté de garder la main sur leur histoire.
C'est réellement un état dans l'état qu'ils sont en train de créer et en train de réfléchir surtout aux nouvelles formes qu'il est possible de mettre en place entre les gens, les gouverneurs, les gouvernés. Mm-hmm. Donc c'est assez incroyable et ils sont très très avancés, quoi. Donc c'est, voilà, nous on était très étonnés, charmés, voilà.
Charmés de l'énergie et de la volonté, voilà, malgré quand même, il faut le dire, voilà, les conditions difficiles dans lesquelles les gens vivent au Chiapas, c'est quand même, voilà, il y a des conditions matérielles très difficiles, avec, il y a aussi une pression, il y a l'armée, il y a 50 000 militaires qui sont présents au Chiapas. Donc voilà, au niveau interne et externe, c'est difficile aussi, quoi.
Oui, mais ça, justement, c'était ma question. C'en est où, point de vue institutionnel, par rapport à l'État central? Est-ce qu'il y a toujours une force militaire présente sur les lieux? Comment ils arrivent à gérer? Est-ce que c'est vraiment autonome? Est-ce que ça fonctionne en dehors du reste de l'État mexicain? Est-ce que, voilà.
Ben, ça fonctionne l'un à côté de l'autre, donc c'est ce qui est assez étonnant. Donc il existe évidemment encore les mairies gouvernementales élues, et à côté de ça, les nouvelles institutions qui sont ces juntas de buen gobierno et qui de plus en plus régissent de nombreux problèmes du quotidien, etc. Et ce sont des institutions, que ce soit les cliniques et les écoles, qui sont ouvertes à tous, et donc pas seulement aux zapatistes. Et c'est assez intéressant de voir justement que notamment les cliniques, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'abord de clinique gouvernementale. Et ensuite, sont souvent le public, et ben, la plupart du temps, je crois que c'était 30 ou 40%, ils disaient quand on était là-bas, de non-zapatistes, et donc de priistes et autres, qui venaient dans ces cliniques. Donc ils sont réellement en train, même parfois, de supplanter, mais tout ça dans des conditions, comme le rappelait Fred, très difficiles, à la fois de pauvreté absolument incroyable, et ensuite une pression militaire. Alors eux, ils appellent ça une guerre de basse intensité. Donc c'est ce qu'on voit depuis un petit moment. Il y avait eu un espoir au moment de l'arrivée au pouvoir de Vicente Fox. Non qu'ils aient jamais cru que Vicente Fox allait être un homme providentiel du tout, mais que ce changement de majorité, puisque ça faisait 70 ans qu'il y avait le prix au Mexique, et vu l'ampleur de la marche qui s'est faite en 2001 et l'énorme légitimité avec laquelle arrivent les 23 commandants zapatistes à Mexico, quand ils sont reçus à la Chambre des Congrès, à ce moment-là, oui, il y a énormément d'espoir.
D'autant que Vicente Fox avait annoncé le jour de son élection qu'il résoudrait le problème au Chiapas en un quart d'heure.
Ouais,
voilà, on attend toujours.
Ouais. Et eh ben, vous avez aussi, quand même, vous n'êtes pas allé qu'au Chiapas, est-ce que vous avez pu recueillir un petit peu, moi ça m'intéresse, comment ce mouvement zapatiste est perçu par les autres Mexicains?
Bon, alors, on ne peut pas parler au Mexique très ouvertement du zapatisme, voilà. Donc, après, on en a parlé avec des gens, évidemment, qu'on a plus ou moins rencontrés autour de ce mouvement-là, donc des gens qui étaient quand même relativement convaincus. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du zapatisme a ouvert la voie à énormément de discussions politiques et a, d'une façon incroyable, fait évoluer le débat politique au Mexique. Donc, partout au Mexique, il y a une vitalité du débat politique qui est incroyable, quoi. Et voilà, qui nous a...
soufflé.
Voilà.
Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
You mentioned that in Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, 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 welcome. Sí, bienvenidos a esta primera emisión intergaláctica de Radio Insurgente.
Et voilà, ce qu'on avait oublié de dire, c'est qu'il y a aussi une radio au Chiapas, évidemment, c'est Radio Insurgente, voilà. Petit jingle, donc issu de cette radio qui émet donc partout dans le Chiapas. Alors, on capte más o menos, mais elle existe.
Alors Fred, tu voulais nous parler un petit peu du programme, on en a parlé tout à l'heure dans l'agenda, mais tu vas nous repréciser un peu qu'est-ce qui se passe autour du Chiapas en France, donc actuellement, bientôt.
Oui, en ce moment, puisque dans le cadre donc, d'une campagne appelée ZLN 20 et 10, le feu et la parole, pour fêter, donc, comme je le disais tout à l'heure, les 20 et 10 ans, donc, plus ou moins, de le ZLN. Donc, Gloria Munoz Ramirez est en France pour présenter un livre notamment sur l'histoire de l'EZLN, de l'armée zapatiste de libération nationale. Et demain à 14h, demain donc le 11 novembre à 14h au CICP.
Il y a une journée de rencontre des luttes. Donc vous êtes conviés toute la journée. Il y a pas mal de choses qui se passent toute la semaine. Gloria sera aussi à Marseille deux jours la semaine prochaine. Et ensuite continuera le programme à Toulouse. Donc je vous dis rapidement les événements. Donc le dimanche 14 novembre à 17h, il y a des documentaires et des discussions toujours au CICP sur la situation au Chiapas. À 19h, il y a un concert de solidarité avec les communes autonomes zapatistes. Donc j'ai oublié de préciser évidemment que tous les fonds qui seront recueillis seront donnés aux Juntas de Buen Gobierno. Le lundi 15 novembre à 19h30, il y aura... jusqu'à 19h30, je pense, il y aura une journée sur la liberté de circulation avec plein de collectifs qui sont invités pour discuter de tout ça. Et le mardi 16 novembre à 19h30, je redis...
Le mardi...
c'est une discussion sur les peuples autochtones. J'avais pas vu qu'il y avait des erreurs sur le programme, voilà. Et par contre, le mercredi 17 novembre, alors c'est toute l'après-midi à Ménilmontant. C'est le jour anniversaire de la création de l'EZLN, donc en novembre 83. Et donc, il y a plusieurs lieux qui vivent à l'heure zapatiste, la miroiterie et le loup Pascalou, ainsi que... comment ça s'appelle ?
Il y a un autre lieu, et si vous avez besoin de retrouver ce programme, c'est cspcl.ouvaton.org. Et on se quitte avec l'hymne aux zapatistes. Merci.
Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesino y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante.
Et oui, c'est un scandale. On a coupé l'hymne zapatiste, mais c'était pour rendre, avec moins de retard que d'habitude, l'antenne à nos amis malgaches, puisque c'est l'émission L'écho du Capricorne qui va commencer. On avait donc aujourd'hui nos envoyés spéciaux qui sont allés bien plus loin que ne l'est jamais allé Guillaume Yom, puisque Fred et Sylvie nous revenaient du Mexique et du Chiapas. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Oreilles loin du front. Merci à tous, à la semaine prochaine.